Les matins de France Culture.
7h25, la revue de presse internationale. Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Ce matin, entre enthousiasme et circonspection.
Oui, 2018 sera-t-elle l'année de la réconciliation entre les deux Corées? Hier, le ministre sud-coréen de l'unification s'est dit prêt à discuter à la fois du calendrier, des lieux, des méthodes et de toute autre démarche préliminaire relative au pourparlers avec Pyongyang. Et mieux encore, il est allé jusqu'à proposer à son voisin un rendez-vous mardi prochain dans un village frontalier, mais pas n'importe lequel, celui-là même où fut signé le cessez-le-feu de la guerre de Corée. Alors pour l'instant, le régime communiste n'a pas donné officiellement sa réponse. Il s'est contenté d'avertir ce matin qu'il allait rétablir le téléphone rouge, seul moyen de communication entre les deux États et qui demeurait coupé depuis 2013. Quoi qu'il en soit, si Pyongyang décidait d'honorer effectivement cette invitation, alors il s'agirait là des premières négociations entre les deux Corées depuis plus de deux ans, se réjouit d'ores et déjà The Korea Times, repéré par le Courrier International. D'où cette question, comment en est-on arrivé là? La presse avance plusieurs hypothèses. Tout d'abord, le président sud-coréen, fraîchement élu, a clairement dit son intention de faire des prochains Jeux Olympiques organisés dans son pays le mois prochain, les Jeux de la paix. L'occasion pour lui donc d'amorcer un dégel avec son voisin du Nord, dont deux patineurs artistiques se sont qualifiés pour participer à ces JO. Alors ce n'est pas grand-chose. Mais après tout, personne ne devrait avoir peur de parler et certainement pas de sport. Et puis surtout, c'est un début et ça, en revanche, c'est une très bonne chose, insiste un analyste sur le site de la chaîne américaine CNN. Ensuite, précise à nouveau The Korea Times, avec cette déclaration, Séoul saisit en réalité la main tendue par Kim Jong-un lui-même lors de son discours du Nouvel An. La veille, le leader nord-coréen avait manifesté son désir d'un rapprochement avec la Corée du Sud. Un revirement radical de ton qui soulève d'ailleurs des interrogations sur les motivations du jeune dictateur. La Corée du Nord a-t-elle réellement atteint l'objectif qu'elle nourrit depuis si longtemps, comprenez devenir une puissance nucléaire moderne, pour se mettre aujourd'hui à favoriser ainsi le dialogue? Ou bien Pyongyang souffre-t-elle des sanctions économiques imposées par l'ONU au point d'être forcée pour s'en sortir de renouer les liens avec la Corée du Sud? Difficile à dire. D'autant que l'opportunité d'avancer vers de véritables négociations de paix pourrait être motivée par une troisième option. Selon le Chosun Ilbo, Pyongyang chercherait ainsi seulement à gagner du temps et, pire encore, à semer la discorde entre les États-Unis d'un côté et la Corée du Sud de l'autre.
Et du côté des États-Unis, Thomas d'ailleurs, l'escalade a aussitôt repris de plus belle.
Oui, hier soir, Donald Trump s'en est à nouveau pris à son meilleur ennemi, note The Huffington Post. Rocketman veut maintenant parler à la Corée du Sud pour la première fois. C'est peut-être une bonne nouvelle, peut-être pas, nous verrons, a déclaré le chef de la Maison-Blanche avant d'ajouter sur Twitter, dans son style si caractéristique, est-ce que quelqu'un de son régime appauvri et affamé peut l'informer que moi aussi j'ai le bouton nucléaire, sauf qu'il est beaucoup plus gros et puissant que le sien et que mon bouton, lui, fonctionne. Bref, une menace à peine voilée, comme le président des États-Unis en a pris l'habitude, un message également largement commenté dans les médias américains, mais aussi sur les réseaux sociaux, à l'instar de cet internaute, est-ce que quelqu'un peut lui enlever Twitter avant qu'il ne débute une guerre nucléaire?
Et puis Donald Trump, décidément jamais avare en intimidation, a également usé de son compte Twitter hier pour menacer cette fois-ci les Palestiniens de leur couper l'aide financière des États-Unis.
Oui, évoquant leur manque d'appétit pour les négociations de paix que la Maison-Blanche se vante, elle, de vouloir relancer. Le président américain a écrit « Pourquoi devrions-nous leur verser des paiements massifs à l'avenir ?» En clair, en menaçant les Palestiniens de les priver de centaines de millions de dollars, Donald Trump chercherait paradoxalement à les convaincre de revenir à la table des négociations. Sauf que quelques semaines à peine après sa reconnaissance de Jérusalem, comme capitale d'Israël, sa menace, écrit le temps, promet surtout de rendre plus hasardeuse toute reprise du processus de paix. D'autant précise à son tour The New York Times ce matin que les experts craignent depuis longtemps que l'aggravation des conditions économiques et sociales en Cisjordanie qu'occasionnerait l'interruption de cette aide ne favorise au contraire davantage encore la violence.
Enfin, direction à nouveau l'Iran ce matin où les manifestations anti-gouvernementales se sont encore amplifiées hier.
Et selon un dernier bilan, elles auraient déjà coûté la vie à au moins 21 personnes. De son côté, la presse continue de s'interroger sur la portée de ce mouvement. Si pour certains, à l'instar du Jerusalem Post, il s'agit d'un véritable espoir, d'autres préviennent que le régime iranien n'a pas dit son dernier mot dans cette situation inédite dans l'histoire de la République islamique. Ce qui est intéressant, souligne notamment le quotidien turc Cumhuriyet, c'est que les manifestations ne sont sous le contrôle d'aucun mouvement politique. Au contraire, spontanées, désorganisées, elles regroupent différents pans de la société. Et en ce sens, les scènes observées ces derniers jours rappellent le début des révoltes dans des pays comme la Tunisie ou l'Égypte il y a 7 ans. Pour autant, malgré la colère, colère de la population. Ces manifestations ne conduiront probablement pas à un bouleversement politique, nuance aussitôt son confrère suisse Basler Zeitung. Pourquoi ? Précisément parce que les manifestants sont dépourvus, du moins pour l'instant, de leaders et de programmes capables de donner un cap à la contestation. Et puis, parce que le régime dispose encore de suffisamment de moyens, dit-il, pour mettre fin à l'insurrection. De son côté, The Times espère, lui, que ces manifestations s'intensifieront tout en appelant à la retenue l'Occident et surtout le président Trump, lequel s'est réjoui dans l'un de ses nombreux tweets de l'action des Iraniens contre un régime, je cite, brutal et corrompu. L'Occident serait mal avisé de soutenir les contestataires, écrit le quotidien britannique, car cette posture risquerait, dit-il, de faire le jeu des faucons, et le journal d'en conclure que le mieux à faire est encore de temporiser et de laisser ce régime vicié à la fois révéler sa propre nature et se débattre dans ses propres contradictions.
Merci beaucoup Thomas Cluzel, on retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture.